Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Martineau. Le préféré du règne animal.
Bonjour, les petits lapins.
Petit lapin. Est-ce que ça existe encore, la vie privée, lorsqu'on est en ligne? Quand vous ouvrez votre ordinateur, vous allez sur Internet, est-ce que vous dites, bon, j'ai plus de vie privée, c'est impossible, c'est une entente que j'ai avec Internet, et je vais arrêter de me raconter d'histoires, ou alors, est-ce que c'est possible encore de préserver sa vie privée et la confidentialité de certains renseignements quand on est en ligne? Ça va être l'objet d'une conférence ce soir de M. Sébastien Gambs. Il est professeur au département d'informatique de l'UQAM, titulaire de la chaire de recherche du Canada en analyse respectueuse de la vie privée et éthique des données massives. C'est intéressant, ça, je ne savais pas qu'il y avait cette chaire-là. Bonjour M. Sébastien Gambs. Bonjour, Monsieur Jones. Bonjour. Alors, la chaire de recherche du Canada en analyse respectueuse de la vie privée et éthique des données massives. Parlez-moi de cette chaire. Je ne la connais pas. Ça existe depuis quand? Quelle est sa mission?
Oui. Je suis désolé, il y a un petit lag au niveau d'Internet, mais en gros, ma recherche porte sur tous les
bon,
les données qu'on collecte, tous les usages qui peuvent être frais, positifs, mais aussi tous les risques de traçage. Donc ça va des données, vous parliez d'Internet tout à l'heure, mais ça inclut aussi des données qui vont être collectées sur ce que les gens font dans le monde physique. Donc ça peut être par exemple passer le portique de métro à une station, une trace va être laissée dans le système qu'on vous a vu à un certain endroit. Ça peut être les caméras de surveillance, mais ça peut être aussi quand vous allez chez des amis, tous les objets connectés qu'ils ont, en passant de l'assistant vocal personnel comme Alexa à potentiellement une caméra de surveillance à l'intérieur. Donc, ça inclut beaucoup de données dans le monde physique, mais dans le monde virtuel aussi.
Écoutez, vous parlez d'Alexa. Est-ce que c'est de la théorie du complot de dire que ces objets-là, ces outils-là nous écoutent, nous espionnent? J'ai déjà raconté cette histoire, je vais vous la raconter. J'ai un ami qui va chez le médecin, il dit qu'il a mal à l'œil, le médecin lui prescrit un médicament pour son œil. Il revient à la maison, il ouvre Amazon, Internet, et il a des publicités de plein de médicaments sur les yeux. Il n'avait jamais fait de recherche, lui, là-dessus. Il dit, ben, ça doit être mon cellulaire. Lorsque je suis allé voir mon médecin, mon cellulaire était sur le bureau et je ne vois que ça comme explication. Le cellulaire a capté cette discussion-là et on m'envoie. Est-ce que c'est de la théorie du complot? Est-ce que c'est de la paranoïa? Est-ce que ça peut exister, ce genre de choses-là, M. Gans?
Oui, il y a des. Déjà, quand on parle des assistants en vocaux, clairement le modèle d'Amazon, c'est de ne pas faire le traitement de la voix localement, de tout envoyer au serveur d'Amazon pour récupérer l'information. Un des exemples, je pense, de traçage marquant dont je vais parler ce soir, c'est le traçage par balise ultrason, où essentiellement vous allez ouvrir une vidéo, par exemple, en de la vidéo, il y a un signal ultrason que vous n'allez pas reconnaître, mais qui va être capté par le micro de votre téléphone, pour être capable de faire le lien entre contenu qui vous intéresse, votre identité par le téléphone. Donc il y a dans le cas de votre ami, je ne sais pas exactement comment ça s'est passé, mais c'est clair que un des objectifs toute l'infrastructure qui est mise en place pour profiler les gens, c'est justement de pouvoir connecter beaucoup d'appareils et de sources de données différentes que visitent les gens. Donc, ça inclut à la fois la navigation, mais aussi, effectivement,
écoutez, Monsieur Grand,
collection dans le monde physique.
J'ai un Google Home chez moi. Est-ce que lorsque j'en ai pas besoin, est-ce que je devrais le déconnecter? Est-ce que Google Home écoute les conversations que j'ai avec ma femme?
Oui, donc essentiellement, la compagnie va dire qu'elle l'utilise principalement pour des fins d'amélioration du service, mais clairement, les données ne sont pas traitées localement. Donc Google va dire que le but de nos ingénieurs, c'est pas d'écouter ce que vous dites dans le votre foyer, votre femme, mais ça n'empêche que ces données-là sont captées et potentiellement vont être intégrés dans des modèles d'apprentissage ou quand même être écoutés par des humains, alors peut-être personne, mais pour valider si la machine a été capable de retranscrire ce qui a été dit. Donc il y a aussi des questions sur combien de temps ces données sont stockées, est-ce qu'elles sont vraiment bien sécurisées, donc le contrôle d'accès est limité vraiment à quelques personnes qui sont liées au projet d'amélioration de traitement de la voix. Donc moi je dirais avant d'acheter un assistant personnel vocal, effectivement il faut se poser la question de est-ce que c'est vraiment quelque chose dont j'ai besoin. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à acheter effectivement si... Si vous posez des questions sur les traces qui sont laissées.
C'est quoi? C'est Snowden qui disait, est-ce que c'est lui ou c'est un autre, mais qui disait que lorsque maintenant il ouvre son ordinateur, il met un sparadrap sur la caméra de l'ordi. Ouais. Parce qu'il
ça,
dit...
c'est comme un mécanisme de protection très simple à faire.
Mais c'est vrai qu'on peut nous regarder par ça, là.
Ben, ça pourrait être... donc, il y a quand même... Je pense qu'il ne faut pas tomber non plus dans la théorie du complot, comme vous disiez, oui. Mais il peut y avoir des logiciels malveillants qui sont installés sur l'ordinateur qui, effectivement, pourraient capter la vidéo. Donc, globalement, une des choses que je veux dire dans ma conférence, c'est aussi essayer d'avoir des bons réflexes d'hygiène numérique traditionnels. Donc, éviter de cliquer sur n'importe quel lien qu'on nous envoie et faites attention aussi... si on s'inscrit sur des sites web, parfois on nous demande beaucoup d'informations, mais certaines informations sont pas nécessaires. Donc le formulaire nous dit pas explicitement qu'est-ce qui est vraiment indispensable ou non. Des fois, on nous donne beaucoup de détails. Donc, je pense que la première réflexe à avoir, ça serait vraiment de pas donner des informations non nécessaires et de voir si le service insiste pour qu'on les donne. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de les donner? Est-ce que c'est vraiment un service essentiel pour nous?
Et vous savez, lorsqu'on utilise Google, par exemple, lorsqu'on utilise Chrome, on nous dit vous pouvez ouvrir une fenêtre et c'est une fenêtre privée là. C'est Chrome mais privé. Ça c'est de la foutaise. Est-ce que ça existe pour vrai ou absolument pas?
C'est en fait ce système-là, essentiellement ce que fait votre navigateur, il va dire au serveur que vous visitez. Donc au site web, ne me tracez pas, mais ça se base vraiment sur la bonne volonté des compagnies derrière les sites web. Donc, si certaines compagnies ne veulent pas respecter ou font exprès d'essayer de respecter partiellement cette obligation, techniquement, il n'y a pas de protection forte. En fait, ça se base sur vraiment vous déclarez au site web que vous visitez, je ne veux pas être tracé, mais est-ce que le site web le fait en pratique? Et comment on peut vérifier ça? Ça reste une question difficile, en fait, à moins de pouvoir envoyer quelqu'un de l'autorité de protection des données, comme la commission d'accès à l'information, pour aller voir vraiment ce que font ces compagnies-là. C'est très difficile de pouvoir valider à distance si elles respectent les déclarations qu'elles font, effectivement.
Monsieur Ganz, il y a des gens qui disent on devrait plus avoir de monnaie papier, tout devrait se passer par le numérique. Non, la monnaie papier, lorsque je fais un achat par monnaie papier, il n'y a pas de trace. Tandis qu'avec une carte de crédit, il y a une trace.
C'est ça. Donc, un des avantages de la monnaie papier, c'est que si vous retirez, $200 à la banque pour la semaine ou pour le mois, quand vous allez utiliser votre monnaie, ça laisse beaucoup moins de traces que quand on paye avec notre carte de crédit. Donc, effectivement, en termes d'anonymat dans des petits achats, ça reste donc le fait d'enlever la monnaie papier, ça peut poser des questions, effectivement, d'augmenter le traçage sur tout ce qu'on va acheter sans aucune possibilité d'anonymat.
Mais c'est fou, M. Ganz, parce que c'est très difficile maintenant de disparaître. De dire, mettons, si j'étais un espion, puis tout ça, on ne peut plus me retracer nulle part. On va me retracer avec mes achats, mes cartes, si je prends le métro, si je vais sur Internet et tout ça. Est-ce que c'est possible de disparaître digitalement?
Non, quasiment pas. Mais il y a des choses positives, je pense, qui s'en viennent quand même sur la manière dont les entreprises gèrent nos données et les droits futurs qu'on va avoir, je dirais, avec les nouvelles évolutions des lois sur la vie privée. Donc, au Québec, on a la loi 25 qui a été votée il y a 2 ans, qui demande aux entreprises, par exemple, de garantir un accès aux données.
Oups, on a perdu la connexion. Est-ce qu'on a perdu le son de M. Sébastien Gambs? Malheureusement.
Est-ce que vous m'entendez?
Oui, là, je vous entends. Et écoutez, okay. Votre conférence, c'est où, c'est quand aujourd'hui? Et est-ce qu'on
va... Ce soir au Cœur des Sciences, donc à côté de la Place des Arts, à 18h.
À 18h, est-ce qu'on va pouvoir, ceux qui ne peuvent pas se présenter, est-ce qu'il va avoir, ça va être en vidéo, oui, qu'on va pouvoir les consulter?
Le Cœur des sciences enregistre toutes les conférences en général et elles sont disponibles sur leur canal YouTube, je pense, après.
Et donc, vous allez nous donner différents trucs pour justement protéger notre vie privée. Merci beaucoup, Sébastien Gans, professeur au département d'informatique de l'UQAM et, je le rappelle, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en analyse respectueuse de la vie privée et éthique des données massives. Bonne conférence, merci.
Merci beaucoup, bonne journée. Merci. Désolé pour les problèmes de son.
Ça va, bonjour.